Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast Ninartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Passons-lui de Jeanne Hélice est un roman français, à la croisée du drame psychologique et du thriller domestique, présenté comme inspiré d'une histoire vraie. Elle intrigue s'attache à un couple, Marie et Eric, dont la vie apparemment ordinaire se fissure sous le poids des non-dits, des mensonges et d'une dynamique relationnelle destructrice. Le livre met au premier plan la dépendance affective et ses effets en chaîne, autant sur la perception de soi que sur la capacité à poser des limites. À mesure que la vérité remonte, le récit installe un suspense centré sur l'intime, où les enjeux moraux et émotionnels comptent autant que les révélations, par son approche. Elle, autrice, cherche moins à offrir une simple intrigue à rebondissement que à explorer les mécanismes psychologiques du déni, de la peur du jugement et de la quête d'acceptation. Le roman vise ainsi les lecteurs qui aiment les histoires intenses ancrées dans le réel et tournées vers la complexité des comportements humains. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la dépendance affective comme moteur dramatique. Elle, un des axes les plus structurants du roman, est la dépendance affective, décrite comme une force qui organise la vie de Marie et déforme sa lecture des événements. Le récit montre comment à l'attachement, quand il devient besoin vital, peut pousser à excuser à l'inexcusable, à minimiser des signaux de alarme, et à accepter des compromis qui abîment l'estime de soi. Dans cette logique, à l'amour, elle n'est plus un espace de soutien, mais une prison, parce qu'il est confondu avec la peur d'être seul, abandonné ou jugé. Cette thématique donne au livre sa densité psychologique, car elle permet d'observer les hésitations. Les contradictions et les rationalisations d'une personne prise dans une relation toxique. Elle, l'autrice, intéresse aussi aux conséquences concrètes de cette dépendance sur la lucidité, sur la capacité à agir et sur le rapport aux proches. Le suspense n'est alors moins d'une enquête extérieure que de la question intérieure centrale. Jusqu'où peut on aller pour préserver un lien dont on pense ne pas pouvoir se passer? Deuxièmement, secret, déni et peur du jugement au cœur du couple, le couple formé par Marie et Eric est présenté comme construit sur une tare d'ombre. Et le roman explore la façon dont les secrets s'accumulent, se justifient, puis finissent par contaminer toute la relation. Le déni devient un mécanisme de survie, à la fois pour protéger une image de couple et pour éviter d'affronter une vérité socialement ou intimement difficile. La peur du jugement, de la famille, de l'entourage et parfois de soi-même joue un rôle décisif dans la conservation de ce silence. En installant cette tension, le livre dépeint un huis clos psychologique où chaque parole peut déclencher une crise et où absence de mots est déjà un acte. Le mensonge n'est pas seulement un événement ponctuel, mais un climat qui modifie la confiance, la communication et la perception de la réalité. Cette dynamique donne au roman une dimension de thriller domestique, car le danger n'est pas extérieur, il est logé dans l'intime, dans ce que chacun refuse d'admettre et dans ce que l'autre redoute de découvrir. Troisièmement, elle événement choc et la spirale de elle irréparable. Le récit, elle s'organise autour d'un choc qui fait basculer l'équilibre précaire du couple et oblige les personnages à se confronter à ce qu'ils tentaient d'éviter. Sans réduire le livre à un simple coup de tête, cet élément déclencheur agit comme un révélateur, mettant en lumière des tensions déjà présentes et accélérant la crise. Le roman examine alors la manière dont une découverte brutale reconfigure les émotions, colère, honte, culpabilité, sidération, et comment ces émotions peuvent conduire à des décisions prises dans l'urgence. La notion de irréparable, mentionnée dans les présentations du livre, renvoie à l'idée que certains actes ou certaines révélations laissent des traces définitives, même lorsque l'on cherche ensuite à réparer. Cette progression dramatique sert le suspense psychologique, car l'incertitude porte sur la réaction de chacun, sur la possibilité de continuer à vivre ensemble et sur le prix moral des choix. Le lecteur est amené à se demander ce qu'il ferait dans une situation comparable. Tant les dilemmes sont ancrés dans des émotions plausibles et des enjeux de réputation, de loyauté et de survie affective. Quatrièmement, une exploration des relations toxiques et de l'emprise, passant lui inscrit dans les récits qui interrogent les relations toxiques, non pas comme un schéma simple, mais comme un enchevêtrement d'attachement, de dépendance et de rapport de force. Le roman met en scène des comportements qui fragilisent, culpabilisent ou enferment, et montre comment l'emprise peut s'installer progressivement, parfois sous couvert d'un amour, de normalité ou de stabilité familiale. L'intérêt du livre est de faire ressentir la complexité du vécu, car la personne qui subit ou endure, elle n'est pas toujours en mesure de nommer ce qui se passe, et peut même défendre la relation pour se protéger du vide qu'impliquerait une rupture. Le texte As attache aussi à 1-1-1 à l'impact sur 1-1-1 pour âge et sur atmosphère familiale, en rappelant qu'une relation dysfonctionnelle ne touche jamais seulement deux individus. En choisissant le registre du thriller domestique, elle, autrice, transforme les micro-violences psychologiques, les mensonges et les non-dits en sources de tensions narratives. Le résultat est une lecture tournée vers la compréhension des mécanismes, plus que vers un jugement immédiat. ce qui explique que certains lecteurs évoquent un passage de l'agacement à la compassion. En dernier lieu, acceptation de soi et reconstruction comme horizon du récit. Au-delà du drame et du suspense, le roman porte une question de fond. Comment se reconstruire quand l'identité, la confiance et les repères ont été ébranlés? Les éléments de présentation et de réception du livre insistent sur l'importance de l'acceptation de soi, de l'amour de soi et du courage d'oser, qui apparaissent comme des points d'appui face au déni et à la peur du rejet. Cette orientation n'efface pas la noirceur de certaines situations, mais elle donne au récit une portée introspective, centrée sur la possibilité de sortir des schémas destructeurs. Le roman invite ainsi à distinguer attachement et dépendance, à reconnaître les limites personnelles et à comprendre que le besoin d'être aimé peut parfois conduire à se trahir soi-même. Cette dimension intéressera particulièrement les lecteurs attirés par les histoires qui laissent une empreinte émotionnelle et qui ouvrent un espace de réflexion sur les choix. Relationnelle. Dans un cadre romanesque, l'autrice propose une lecture des comportements humains marqués par l'empathie, en montrant que la lucidité et la dignité ne se décrètent pas, mais se construisent au prix d'une confrontation difficile avec la vérité. En conclusion, Passons-lui adresse de d'abord aux lecteurs qui aiment les drames psychologiques intenses et les thrillers domestiques, oh la tension naît des liens familiaux. Des secrets et des dilemmes moraux plutôt que donne une intrigue purement criminelle. Le roman conviendra aussi à celles et ceux qui cherchent dans la fiction. Une exploration réaliste de la dépendance affective, des relations toxiques et du déni, avec des personnages conçus pour susciter des réactions ambivalentes, parfois de la colère, parfois de la compassion. Sur le plan intellectuel et émotionnel, la lecture offre un bénéfice clair. Elle aide à mettre des mots sur des mécanismes relationnels souvent difficiles à reconnaître, comme la peur de l'abandon, la honte, la rationalisation ou l'enfermement progressif. Le livre se distingue dans sa catégorie par son positionnement inspiré de faits réels et par une narration qui met l'accent sur l'intime, la psychologie et l'acceptation de soi. Là où certains thrillers domestiques privilégient la manipulation spectaculaire, celui-ci cherche surtout à comprendre ce qui se joue derrière les comportements et à faire ressentir le côté humain des mensonges et des silences. C'est une lecture qui interpelle parce qu'elle confronte le lecteur à des questions simples et redoutables, jusqu'au « où tolérer, quand partir et comment se choisir enfin ». Si vous souhaitez soutenir Janilis, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.